Radio Kapi.
Oh, Kapi. Les informations, Blaise Shindani Kambala.
Bonjour à tous et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. Le financement de la gratuité de la maternité et l'assainissement du fichier de la paie des fonctionnaires étaient des décisions importantes prises lors de la 79e réunion du Conseil des ministres tenue vendredi 20 février à Kinshasa. Industrialisation minière, un débat au cœur dans les universités. À l'origine de cette initiative, le député national Thierry Moulumba Pandangila, porteur d'une proposition de loi qui vise à transformer localement les substances minérales et à développer les chaînes de valeur en RDC. L'invité de ce journal est Mamouna Ouedraogo, inspectrice générale de police et chef de la police de la MONUSCO. Elle parle des défis auxquels fait face la PNC dans un environnement marqué par l'insécurité, ainsi que l'importance de l'appui de UNPOL à la PNC pour renforcer la protection des civils dans les zones de Beni, Butembo et Lubero, régulièrement touchées par la violence. Mesdames et messieurs, encore une fois bonjour. La 79e réunion du Conseil des ministres tenue vendredi 20 février a été marquée par des décisions importantes visant à la fois le bien-être social et la rigueur budgétaire. Entre le financement de la gratuité de la maternité et l'assainissement du fichier de la paie des fonctionnaires, le gouvernement entend stabiliser les finances publiques. Les détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Les premiers grands axes de cette réunion concernent la santé maternelle et néonatale. Le président de la République a insisté sur l'urgence de sécuriser le financement de la gratuité des accouchements et des soins aux nouveau-nés. Lancé en septembre 2023, ce programme phare de la couverture de santé universelle a déjà permis des millions d'accouchements gratuits. Pour éviter tout arriéré de paiements aux hôpitaux, la première ministre a été chargée de définir des mécanismes de financement pérennes impliquant également des partenaires techniques et financiers. Sur le plan de la gouvernance financière, l'air est à l'assainissement. Le chef de l'État a ordonné un audit exhaustif de l'état liquidatif de la paie des agents publics. Cet audit, qui doit durer 30 jours, vise à garantir que chaque fonds versé corresponde à un service réellement rendu, tout en protégeant les droits des fonctionnaires réguliers. Enfin, pour lutter contre les circuits informels et les pertes de recettes, une nouvelle stratégie de captation et de sécurisation des flux d'or est en cours d'élaboration. Le pays attend ainsi mieux contrôler ses devises et renforcer la stabilité macroéconomique face à l'exploitation artisanale, souvent mal encadré.
Au Kassai central, à l'occasion du 20e anniversaire de la Constitution du 18 février 2006, un avocat du barreau du Kassai central lance une pétition en vue de sa révision. Maître Christian Moulamba plaide pour un renforcement de l'organisation de l'État et des provinces, ainsi qu'une modernisation en profondeur du cadre institutionnel. Parmi les propositions phares de cette initiative figurent les transferts de la capitale à Matadi, l'instauration d'un quota obligatoire de 30% de jeunes et de 30% de femmes au sein du gouvernement, ainsi que la suppression du Sénat au Parlement congolais. Maître Christian Moulamba détaille les grandes lignes de sa démarche au micro d'André Katendengala Mouroumé.
Premièrement, l'instauration d'un Parlement monocaméral. Et en dehors de ça, l'instauration de l'anglais comme ligne des langues officielle. Je vise un quota de 30% pour les jeunes, 30% des femmes. Ce sont des pourcentages obligatoires. Et aussi, les transferts de la capitale vers Matadi. En dehors de ça, la réintégration du parquet dans le pouvoir judiciaire. Le Tetela sera reconnu comme l'hymne des langues nationales. Les Tetela ont joué un rôle très important dans ces pays et notre héros national est Tetela. J'ai proposé la création des chambres d'appel au sein de la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle. Le mandat du président de la République, j'ai précisé, lorsque vous lisez la Constitution, vous dit le président est élu au suffrage universel pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. On crée une confusion. Lorsqu'on parle du renouvellement en droit, on voit les mandats successifs. Qu'en est-il d'un président, par exemple l'ancien président, qui a laissé le pouvoir? Est-ce qu'il peut revenir en 2028? la Constitution ne l'a pas interdit.
Dans un tout autre chapitre, au Nord Kivu, la situation humanitaire dans les zones sous occupation de l'FCM-23 et la question de la réouverture de l'aéroport de Goma ont dominé les échanges tenus ce vendredi entre la commissaire européenne à la gestion des crises et à l'aide humanitaire, Adja Labib, et la coordination politique de l'FCM-23. La responsable européenne a clôturé dans la ville de Goma une tournée de 6 jours dans la région des Grands Lacs. À sa sortie d'entretien devant la presse, la mandataire des ministres des Affaires étrangères des 27 pays de l'Union européenne a décrit la situation humanitaire comme catastrophique. Elle plaide pour une amélioration urgente. Ses propos dans cet extrait que nous avons recueilli.
Je me suis rendue à Kinshasa, ensuite à Bujumbura, puis à Kigali et maintenant à Goma avec le même message, un plaidoyer en faveur du respect du droit international humanitaire. La situation est catastrophique. Nous devenons le premier acteur global humanitaire, particulièrement ici, dans la région des Grands Lacs. Mais il faut nous aider à faire notre travail. Et nous avons de plus en plus des violations flagrantes du droit international humanitaire. J'ai fait part de toutes sortes de tracasseries, de problèmes. Et je me fais le relais ici des ONG internationales, des agences des Nations Unies qui travaillent difficilement ici. Je me suis moi-même rendue dans les camps de transit. J'ai moi-même recueilli les témoignages. Je suis aussi commissaire à l'égalité. Et les premières victimes de cette guerre, ce sont avant tout des femmes et des enfants. J'ai obtenu des engagements concrets de toutes les parties que j'ai rencontrées. Et j'espère que ces engagements seront mis en œuvre et que cette mission portera ses fruits.
Accompagné de Joa Borgstam, représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs, Adja Labib a entamé sa tournée le 16 février 2026 à Kinshasa. Elle a ensuite rencontré les autorités du Burundi à Bujumbura, puis celles du Rwanda à Kigali, avant de conclure sa mission par Goma. En Ituri, 71 petites et moyennes entreprises locales bénéficieront des subventions dans le cadre du projet Transforme. Elles ont été présentées au public vendredi à Bunia. Ces entreprises ont été sélectionnées après une évaluation de leurs activités, notamment leur impact en faveur de la population et leur contribution au développement local. Selon les responsables du programme, chacune d'elles pourra recevoir en moyenne 55 000 $ américains. Ces fonds serviront principalement à l'acquisition d'équipements et de moyens de production. Un accompagnement technique est également prévu pour soutenir leur croissance. Jean-Luc Moilou, chargé de communication du projet Transforme, est au micro d'Isaac Remoyopi.
Pour la ville de Bunia, nous avions sélectionné 71 petites et moyennes entreprises de plus de 3 ans. Donc à cette occasion, il était important de les présenter officiellement à la communauté pour qu'elle soit connue et que nous puissions également fixer les étapes qui vont venir après la sélection, les opérations de cadrage, les prépare à recevoir la subvention. En moyenne, c'est quelque chose qui avoisine les 55 000 $américains. L'accompagnement, c'est un accompagnement personnalisé sur tous les besoins qui concernent la croissance de leur entreprise. Il s'agit d'apporter un ensemble technique d'abord avec du coaching et un accompagnement personnalisé. L'entreprise de tel secteur a besoin de quoi exactement? Est-ce un problème d'accès au marché? Est-ce un problème de gestion de clientèle? Un problème d'accès à telle ou telle autre ressource? Mais bien évidemment, il y a l'accompagnement financier avec non seulement la subvention, mais l'accord conclu avec un certain nombre de banques commerciales pour accompagner ces PME dans l'acquisition de leur matériel de production.
Parmi les principaux défis à relever pour assurer la réussite de ces entreprises figure la restauration de la paix sur l'ensemble de la province de l'Ituri, une responsabilité qui incombe à l'État congolais, déclarent certains lauréats. La question de l'industrialisation minière en République démocratique du Congo a dominé les échanges lors de la 10e conférence organisée la semaine dernière à l'université officielle de Mbujimayi dans la province du Kasaï oriental. Cette rencontre s'inscrit dans une série de débats menés dans plusieurs institutions académiques du pays. À l'origine de cette initiative, le député national Thierry Mulumba Pantangila, porteur d'une proposition de loi qui vise à transformer localement les substances minérales nationale et à développer les chaînes de valeur en RDC. Devant les étudiants de Mbujimayi, cet élu du peuple a souligné l'importance de ces textes qui ambitionnent à maximiser la valeur ajoutée locale, soutenir une industrialisation durable, renforcer la souveraineté économique et accroître les recettes publiques. Cette loi est une étape essentielle pour que nos ressources profitent d'abord à notre économie et à nos citoyens, a expliqué Thierry Mulumba, insistant sur la nécessité d'une vision nationale capable de transformer la richesse minérale en levier de développement. On écoute Thierry Mulumba Mpandangila dans ses propos recueillis par Esther Ndalafina.
La loi Mpandangila vient résoudre et combler le vide légal qui existe dans notre pays, dans tout l'arsenal juridique pour ce qui concerne la transformation locale de nos ressources naturelles et plus spécialement celle des ressources minières. Donc le code minier régule, réglemente les activités extractives. Par contre, jusqu'à présent, il n'y avait aucune loi réglementée les activités post-extractives dans la chaîne de valeur des substances minérales, et c'est ce que nous apportons à travers la loi Mpandangila. La transformation locale sera progressive. La particularité, ça doit d'abord être le bénéfice que gagnera le pays en appliquant cette loi. Nous avons expliqué que l'extraction des minerais ne représente que 10% de la chaîne de valeur des substances minérales. Par contre, la transformation, elle vaut 90%. Donc si le pays veut gagner de l'argent et développer son économie sur base de ses ressources minières, elle a tout intérêt à se lancer à la transformation locale pour avoir des recettes qui sont beaucoup plus importantes que celles-là.
À l'occasion de la Journée mondiale de langue maternelle célébrée le 21 février, le Centre Wallonie-Bruxelles a organisé pendant 2 jours, soit vendredi et samedi, à Kinshasa, le 3e salon des littératures des langues congolaises. Plusieurs orateurs ont présenté leurs exposés, entre autres sur les thèmes comme « Traduire nos langues », c'est traduire notre mémoire et notre avenir. Pour les intervenants, la population congolaise doit intérioriser la diversité des langues parlées en RDC. La langue Tshiluba était à l'honneur, indique en Tshiluba écrit par Ngoyi Lukandgu, a été présenté au public. Également, le livre Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, traduit en Tshiluba par André Chamba Kaninda, ancien journaliste de Radio Kapi Odeske Tshiluba. Pourquoi traduire ce livre en Tshiluba? André Chamba explique au micro de Richard Junior Kamunga.
La traduction de ce livre poursuit 3 objectifs. D'abord, c'était un exercice de l'écriture en Tshiluba, étant moi-même autodidacte dans la langue. Ensuite, je l'avais traduit pour répondre et clore la polémique selon laquelle nos langues sont des dialectes parce qu'elles ne sont pas structurées. Et là, je venais de montrer qu'en traduisant Le Petit Prince, qui est écrit en un français soutenu, et lorsqu'on traduit dans nos langues, cela prouve que nos langues sont structurées et elles ne sont pas des dialectes. Et enfin, je voulais aussi répondre à ceux qui disent que nos langues sont pauvres. Les vocabulaires de nos langues ne sont pas suffisants pour couvrir peut-être des concepts et des mots qui sont dans d'autres langues. Et là, je venais de prouver que nos langues sont riches, mais c'est nous qui ne les maîtrisons pas. Je donne l'exemple du mot astéroïde. Qui pouvait penser qu'on pouvait avoir la traduction du mot astéroïde en Tshiluba, que j'ai traduit par Kabulung, parce que l'astéroïde, c'est une planète, et en Tshiluba, une planète.
Restons dans ce domaine des langues avec cet appel. Les intellectuels congolais en général, ceux de la Tshopo en particulier, sont appelés à promouvoir l'usage des langues maternelles congolaises en famille, l'un des espaces privilégiés pour leur apprentissage. Ceci pour garantir son identité culturelle et sauver les langues premières menacées, nos langues premières menacées d'extinction à la suite de leur négligence au profit des langues étrangères. Cet appel a été lancé samedi à Kisangani par les intervenants à la conférence organisée par le Centre de recherche en langue et culture africaine. C'est à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle. Le point avec Jacques Mukonkole.
Les 4 orateurs du jour, les docteurs Emmanuel Ngbanga, David Kopawakopa, De Gaulle Itolomé et Nicolas Mumbaya ont démontré à travers leurs exposés respectifs les menaces d'extinction qui pèsent sur les langues maternelles congolaises. Si les familles, espaces de prédilection pour leur apprentissage, ne s'impliquent, affirme-t-il, ces langues vont disparaître et avec elles, tous les savoirs endogènes, comme l'explique le directeur du centre par intérim, le docteur Nicolas Mumbaya.
Si nous perdons nos langues, nous perdons aussi Tout ce que nous avons comme richesse, c'est dans nos forêts. Et par conséquent, ils ne sauront pas les fonctions qui remplissent ces espèces. Telle espèce est adressée à guérir telle maladie. Tous ces savoirs, on ne peut plus transmettre ça aux générations futures.
Afin d'éviter leur mort progressive, les conférenciers encouragent, outre leur usage en famille, le renforcement des recherches sur elles. Les médias et les opérateurs culturels sont appelés également à les valoriser. Enfin, ils recommandent une politique linguistique qui tienne compte de leur intégration dans l'enseignement. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
La justice malgache poursuit ses enquêtes sur Mami Ravatomanga, le parrain du régime déchu d'Andry Rajoelina, actuellement en détention préventive à l'île Maurice pour blanchiment d'argent et entente délictueuse. Samedi, le pôle anticorruption d'Antananarivo a annoncé avoir émis un nouveau mandat d'arrêt international contre lui. Cette procédure, qui mobilise 4 juges d'instruction malgaches, porte sur le monopole mis en place dans la filière litchi. Les maniants ont contrôlé les exportations d'une main de fer jusqu'à sa fuite à Maurice en octobre dernier.
L'invité.
Notre invité est Mamouna Ouedraogo, inspectrice générale de police et chef de la police de la MONUSCO, qui vient d'achever une mission de 3 jours à Beni, chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu. Elle revient sur les défis auxquels fait face la police nationale congolaise dans un environnement marqué par l'insécurité, ainsi que sur l'importance de l'appui de la police de la MONUSCO UNPOL à la PNC pour renforcer la protection des civils dans des zones de Beni, Butembo et Lubero régulièrement touchées par la violence. Mamouna Ouedraogo s'entretient avec Martial Papimoukeba.
Madame Mamouna Ouedraogo, bonjour.
Bonjour.
À l'issue de votre mission à Beni et après vos échanges avec les gouverneurs du Nord Kivu ainsi que les responsables provinciaux de la police, quels sont, selon vous, les défis prioritaires auxquels la police nationale congolaise fait face dans les contextes sécuritaires actuels?
À l'issue de ma mission à Beni et des échanges fructueux que j'ai eu avec le gouverneur du Nord Kivu ainsi qu'avec les responsables provinciaux de la police nationale congolaise, il apparaît clairement que, en tout cas, les défis sont multiples. La police nationale doit faire face à une insécurité persistante qui est marquée par la présence de groupes armés dans la zone et également nous enregistrons des violences qui affectent directement les populations civiles. Donc, tout un ensemble de défis auxquels la police nationale est confrontée. À cela également, il y a les difficultés ou les contraintes opérationnelles qui sont liées particulièrement au manque de moyens logistiques, au manque de moyens techniques, ainsi que aussi la nécessité de formation du personnel. Le défi, en tout cas, majeur reste de consolider les capacités institutionnelles afin que cette police-là puisse réellement et pleinement assurer sa mission de protection des civils.
Alors, en quoi la coopération entre la MONUSCO, UNPOL et la police nationale congolaise peut-elle contribuer concrètement à renforcer la protection des civils, notamment dans les zones affectées par l'insécurité comme la région de Beni?
Il faut dire que cette coopération est très appréciable des deux côtés, tout d'abord pour commencer, et dire qu'elle constitue un levier important, essentiel, dans le renforcement de la protection des civils. Concrètement, elle se traduit par plusieurs aspects, tels que, par exemple, les formations, les accompagnements en équipement ou en infrastructure, l'appui, conseil. Et dans les zones affectées par l'insécurité comme Beni, nous pensons en tout cas que cette coopération permet de développer des stratégies communes. Elle permet également d'améliorer la coordination des interventions PNC, UNPOL et souvent aussi avec d'autres acteurs comme les FRDC ou avec notre force, la composante militaire de la mission. Toujours dans le but de renforcer également aussi la confiance entre les forces de sécurité et les populations de Béni et que l'objectif, c'est vraiment que l'action policière doit être très efficace et plus proche des communautés, davantage orientée aussi vers la prévention que la répression.
La MONUSCO appuie la police nationale congolaise à travers des formations et des dotations en équipement, comme vous venez de le dire. Quel changement concret attendez-vous de ces appuis dans le travail quotidien des policiers sur le terrain?
C'est d'améliorer les compétences des personnels de la police nationale congolaise, leurs compétences opérationnelles et professionnelles. Par exemple, quand on parle de maintien de l'ordre ou de la gestion des foules, quand on parle du respect des droits humains, quand on parle des investigations criminelles, on a beaucoup de cas de violences qui sont faites à l'égard des populations et aussi des violences sexuelles basées sur le genre contre les femmes et les filles. En tout cas, c'est aussi renforcer vraiment les capacités des personnels de la police nationale congolaise pour qu'elles puissent mieux prendre en charge tous ces différents cas que nous avons mentionnés plus haut.
Quel message souhaitez-vous adresser à la population du Nord Kivu qui vit dans un contexte sécuritaire encore préoccupant?
Le message reste un message de solidarité, d'espoir et d'encouragement, car nous savons tous que les citoyens y vivent dans un contexte sécuritaire préoccupant. D'énormes efforts sont faits par les autorités pour juguler ces différents défis sécuritaires et c'est vraiment les encourager à maintenir et à renforcer le partenariat, la collaboration, la coordination avec les forces de sécurité et les différentes autorités qui travaillent au bénéfice des populations.
Madame Mamouna Ouedraogo, merci.
Merci bien à vous.
C'était notre invité Mamouna Ouedraogo qui s'entretenait avec Martial Papimoukeba et c'est ce qui met fin à cette édition du journal coordonné et supervisé par Jude Mystère Bilan Dankoumar et mise en onde par Pierre Diassinois. Ce journal est à retrouver sur notre site internet www.radiocapi.net. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la radio de la paix avec Christelle Friti-Mangois.